France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les œuvres d'art, et notamment les sculptures de l'Antiquité grecque, qui sont parvenues jusqu'à nous, représentent invariablement les divinités dans leur plus simple appareil. D'où une vision moderne, souvent déformée, faussée, de cette nudité dans l'Antiquité, tant pour ce qui concerne sa pratique que sa signification sociale ou rituelle. Chez les Grecs, la nudité était publique, elle constituait un élément de civilité. Les Romains, observant cette nudité dans les cités grecques, ont les premiers porté sur elle un regard et un jugement négatif. Les conceptions romaines étaient du reste différentes de celles du monde hellénique. À Rome, était considéré nu quiconque était dépourvu des attributs de sa fonction. Ces éclairages historiques nous sont donnés dans l'émission que voici par l'historien Maurice Sartre au micro de Jean-Noël Jeannonet. La nudité dans l'Antiquité et ses perceptions jusqu'à notre époque, c'était le programme de ce numéro de Concordance des temps, diffusé pour la première fois sur France Culture le 7 juin 2008.
Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Vous montrerai-je nu comme je suis, mais la nécessité me presse. Que du moins ce vert feuillage cache ma nudité.
Oh, regardez, un homme nu, un sauvage. Fuyons, mes soeurs.
Musica,
Musica.
Oh, jeune fille, qui que tu sois, je viens à toi.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannonet. Bonjour. Je ne sais pas si l'événement laissera beaucoup de traces dans l'histoire, mais pour un bref moment au moins, l'attention des Parisiens est forcément attirée, sauf pour ceux qui sont vraiment très myopes, sur un défilé singulier qui s'annonce dans les rues. Il s'agit de la manifestation de cyclo-nudistes qui, pour protester contre la pollution des rues par les véhicules à moteur et sauf improbable interdiction ou empêchement de dernière minute, va parcourir tout à l'heure notre capitale, comme aussi et en même temps Londres, Madrid et Washington. Un bon nombre de citoyens et de citoyennes, tout nus, vont donc circuler à bicyclette. Le Monde FR nous apprend que la préfecture de police aurait dit aux organisateurs ne pas avoir d'objection à ce défilé, quelle que soit, je cite, « la tenue vestimentaire des participants et des participantes ». Interrogée par l'AFP sur l'attitude des forces de l'ordre, la même préfecture aurait simplement déclaré qu'elle prendrait, je cite encore, « les mesures qui s'imposent en fonction de la situation ». Cette légère incertitude laissant ouverte la question, le goût m'est venu de réfléchir avec du recul, c'est notre vocation dans cette émission et c'est notre plaisir, de réfléchir sur la nudité dans le passé et de nous porter loin en arrière jusque dans l'Antiquité gréco-romaine. J'ai donc invité Maurice Sartre, professeur à l'Université de Tours, habitué de cette émission, qui a rendu compte avec beaucoup d'éloges, voici 2 ans, dans le magazine L'Histoire, d'un livre de Pierre Cordier, sur les nudités romaines, c'est le titre. Maurice Sartre va nous aider ce matin à considérer et à interpréter la manière dont les corps étaient à l'époque dénudés en public et ce que cela peut nous apprendre sur les sensibilités collectives et sur les formes originales de l'exhibition et de la pudeur en ces temps très anciens et peut-être aussi depuis lors.
«
apéro, bar, métro, bureau, théâtre, par-dessus smoking et faux col en pesé. Plaisir sans joie ou joie si peu folâtre, oui, tout m'ennuie, je me sens désabusé. La ville est infernale, ce soir bouclons nos mâles. Vivre tout nu sur une plage, tout nu comme un sauvage. Voilà mon désir et tout mon plaisir. Vivre tout nu, libre et joyeux, sous le soleil et le ciel bleu. Rêver sur le dos dans le sable fou. Chérie, nous oublierons la cité tout en fièvre. Et nos baisers seront plus exquis sur nos lèvres. Vivre tout nu sur une plage, loin des salons, des bavardages. Voilà le bonheur, le rêve enchanteur. Derrière ces rochers infranchissables, aucun témoin ne viendra nous déranger. Déshabillons-nous vite sur le sable, la mer est tiède, il fera bon s'y plonger. Adieu mine contrite, et pudeur hypocrite. Vivre tout nu sur une plage, tout nu comme un sauvage. Voilà mon désir et tout mon plaisir. Vivre tout nu, libre et joyeux, sous le soleil et le ciel bleu. Rêver sur le dos dans le sable chaud. Chérie, tu m'apparais aujourd'hui bien plus belle. Ton corps a plus d'attrait, sans robe ni dentelle. Vivre tout nu sur une plage, loin des salons, des bavardages. Voilà le bonheur, le rêve enchanteur.
Maurice Sarde, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre une chanson tout à fait inédite qui était encore restée sur un support 78 tours. Une chanson de Pierre Mingan, Vivre tout nu, avec l'orchestre Valberg. Je me suis demandé, en vous voyant sourire avec une satisfaction patente, je me suis demandé si vous vous interrogez sur l'éventualité qu'une chanson similaire ait pu être chantée et prospérer à l'époque des Grecs.
J'ai trouvé cette chanson tout à fait passionnante, d'abord parce que la musique est belle, et elle est passionnante parce que elle nous permet de mesurer en effet l'espace extraordinaire qui nous sépare de la conception de la nudité chez les Grecs.
Donc la réponse est non.
La réponse à la question, évidemment, est non. Je crois qu'une telle chanson n'aurait pas de sens. Pour au moins, je crois, trois raisons. D'abord...
Déjà un plan ternaire.
Déjà, oui, mais quand on est professeur, on se refait peut-être pas. D'abord parce que l'éloge de la nudité que fait l'artiste, ou celui qui a créé la chanson, c'est l'éloge d'une nudité brute, si j'ose dire. D'ailleurs, c'est dit dans la chanson, on va vivre comme des sauvages. Et la nudité, les Grecs savent très bien que la nudité, c'est aussi une forme de la pré-civilisation, de la barbarie en quelque sorte. Mais c'est pas cette nudité-là qui est exaltée par les Grecs.
C'est aussi un élément de la civilisation.
C'est aussi un élément de la civilisation. Et je crois que ça nous permet déjà de poser au moins un jalon dans notre discussion. C'est qu'il y a une nudité brute, fondamentale, celle de l'enfant qui vient de naître, ou du sauvage, d'ailleurs ce qui n'existe pas évidemment, qui n'aurait aucun, le degré zéro de la civilisation, et qui continuerait à vivre nu comme il est sorti du ventre de sa mère. Et
puis il pourrait exister dans l'imagination ou dans la doctrine philosophique.
C'est ça, dans la chance, c'est philosophique, exactement. Et de l'autre côté, il y a les nudités construites, c'est-à-dire qui sont des nudités liées à un comportement, à un moment de la vie, j'allais dire des nudités socialisées, en quelque sorte. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle cette chanson est très intéressante.
La seconde raison,
c'est que malgré tout, cette nudité, elle relève de l'intime. À plusieurs reprises, on nous dit on va être loin, on fuit la civilisation, donc, et puis on va aller vivre caché. On a trouvé une petite plage tranquille, en quelque sorte, où on va pouvoir être tout nu.
Loin des salons, loin de la vie
urbaine. Loin des salons, mais surtout un endroit où on est seul. C'est-à-dire que la nudité appartient encore à l'intime, en quelque sorte.
Aucune ostentation.
Aucune ostentation, aucune exhibition, au contraire. Et là encore, on est à l'opposé de nudités grecques, qui sont des nudités public. Il y a aussi des nudités privées, bien entendu, dans certaines circonstances.
Forcément.
Mais il y a aussi des occasions publiques de la nudité. Et puis, de même à Rome. Et puis, il y a une troisième raison, alors là, qui nous sépare totalement du monde grec, c'est que cet homme, donc, qui va fuir pour vivre tout nu, il part avec sa femme, et ils vont être deux nus, l'homme et la femme. Or, dans le monde grec, si la nudité masculine est un phénomène avéré, socialement valorisant, la nudité féminine, elle est de l'ordre de l'intime et de l'intérieur de la maison. Il n'est pas question qu'on affiche un homme et une femme nus. Et tous les spectacles ou toutes les occasions où il y a des hommes nus en public, les femmes sont exclues. Donc il y a au moins trois raisons qui font que cette chanson est impensable, en effet, dans les sociétés antiques.
Oui, nous avons eu plaisir à écouter Pierre Mingan chanter. Maintenant, nous pouvons lui être redevables, puisqu'il nous a, par votre truchement, donné l'occasion d'un véritable inventaire des questions que nous allons traiter. Et puisque vous évoquez le sauvage, commençons par le sauvage, parce qu'il y a effectivement un certain regard de l'Antiquité, une certaine idée qui se font ethnographique, morale, sur les nudités sauvages.
Alors, je crois que la nudité, effectivement, ça peut être, dans un certain nombre de cas, la nudité qui est antérieure à la civilisation. C'est ce que j'appellerais la nudité fondamentale, en quelque sorte. Les Grecs savent très bien que l'homme naît nu. Il sort du ventre de sa mère nu. Le corps brut n'est jamais valorisé. Et c'est probablement là aussi un point qui sépare fondamentalement les Grecs des mouvements contemporains de retour à la nature, que ça soit, employons les deux termes qui sont pas semblables, mais que ce soit les mouvements naturistes ou les mouvements nudistes ou le comportement nudiste, me paraissent totalement en opposition avec la pensée des Grecs sur ce point.
Donc une idée qu'on va se fondre dans la terre, qu'on va retrouver les origines.
Voilà. Pour les Grecs, c'est pas du tout valorisant, alors que pour les mouvements naturistes ou même pour les nudistes au sens propre.
Quelle différence faites-vous entre nudiste et naturiste?
Le naturisme, je dirais que c'est, en général, on dit que c'est fondé sur une philosophie ou sur un comportement, c'est-à-dire c'est bien volontairement le retour à la nature, la communion avec la nature environnante, le soleil, la mer, la terre, tout ce que vous voudrez, les forces de la nature. Il y a un petit côté pré-écolo, en quelque sorte, dans cette affaire-là. Le nudisme est plus banalement jugé comme l'exhibition du corps nu, sans qu'il y ait derrière une philosophie qui sous-tende. C'est simplement le plaisir d'être nu, et pour certains de ses détracteurs, peut-être aussi une volonté d'exhibition, ce qui est encore autre chose. Pour les Grecs, ce type de comportement n'a pas cours. Je veux dire que pour eux, la nudité de l'homme pré-civilisé, qui n'est pas civilisé, n'est jamais valorisée. C'est l'image de la brutalité du barbare. C'est ce qui fait, par exemple, qu'un certain nombre de barbares combattent nus. Les Gaulois, les Samnites. On dit qu'ils battent nus, ce qui est pas toujours vrai d'ailleurs, mais il est vrai qu'on a des représentations de guerriers qui sont nus, ou au moins qui ont le bas-ventre nu, par exemple. Et donc là, on considère, les Grecs jugent que c'est le signe même de la barbarie.
Alors on trouve des cas spécifiques dans Hérodote ou ailleurs, les garamantes, les ganfasantes.
Oui.
Rappelez-nous qui étaient ces peuples.
C'est des peuples d'Afrique du Nord, de la Libye actuelle.
Les premiers qui ont la peau noire sont supposés être très très brutaux et les seconds au contraire presque timides.
Oui, mais alors eux,
tous nus.
Ils vivent nus pour d'autres raisons, mais justement ce sont des exemples même de ces peuples qui, pour les Grecs, ne connaissent pas du tout la civilisation. Ils sont nus parce qu'ils n'ont pas atteint un certain degré de civilisation. Mais, et c'est une chose intéressante et qui permet peut-être d'avancer sur la question, en même temps, les Grecs jugent que ceux qui n'osent pas se montrer nus volontairement sont des barbares.
Bon, on perd c'est sur les deux tableaux.
Exactement, on perd sur les deux tableaux. Le barbare, c'est à la fois celui qui va combattre nu et qui reste dans cette nudité primitive, et en même temps, c'est celui qui, dans un certain nombre de cas, a atteint un certain niveau de civilisation, mais qui refuse la nudité. Et par exemple, il y a un passage très intéressant de Thucydide où il explique comment les Grecs en sont venus à courir nus. Pourquoi les athlètes sont nus.
Pourquoi?
Et alors Thucydide donne une explication qui vaut ce qu'elle vaut, puisqu'il y a d'autres explications qui ont été données. Mais je donne celle-ci parce qu'elle est très intéressante. Et il dit, ce sont les Spartiates qui, les premiers, se montrèrent nus. On les vit se dévêtir pour paraître en public et, le corps frotté d'huile, se livrer à des exercices athlétiques. Autrefois, même dans les compétitions olympiques, les athlètes portaient un pagne qui leur cachait le sexe. Aujourd'hui encore, chez certains barbares, très intéressant, barbares, et en particulier chez les Asiatiques, il y a des concours de pugilat et de lutte, où les combattants portent un pagne. On pourrait invoquer bien d'autres faits pour montrer que dans le monde grec de jadis, le mode de vie était analogue à ce qu'il est aujourd'hui chez les barbares. C'est-à-dire que de porter un pagne, de porter un vêtement pour pratiquer le sport, c'est le signe de la barbarie. Et de la même manière, dans un autre passage, Hérodote nous explique que les barbares, et c'est un trait même de la barbarie, répugnent à être vus nus.
Peut-être s'approche-t-on alors d'un autre point de vue, qui est celui souvent développé par les Romains, Lucrèce par exemple, qui oppose cette nudité primitive, qui aurait été une sorte de simplicité dans les mœurs, et par conséquent proche de la vertu, à dégradation des comportements, au tempora, au mores.
Oui, mais en même temps, c'est lié. Alors ça, c'est plutôt le rêve d'un âge d'or. Cela dit, les anciens, les Romains, alors, ont à l'égard de la nudité une attitude tout à fait différente de celle des Grecs.
Il faut que nous allions de l'un à l'autre.
Oui, oui, on peut aller
de l'un à l'autre. On a tendance à les mêler.
Je crois qu'il ne faut pas les mêler. Bien sûr, à l'époque impériale, dans les termes romains, les baigneurs sont nus aussi. Bien sûr, dans les exercices du gymnase, parce que le gymnase s'est aussi développé à Rome, là aussi, les corps sont nus. Mais les Romains ont montré beaucoup de répugnance à l'égard de la nudité des Grecs, justement. Et il y a eu de très fortes oppositions. Et souvent, les Romains jugent comme nus des gens que nous ne jugerions pas du tout comme nus.
Nus, ça veut dire, en somme, ne pas porter un vêtement que la décence, les mœurs, les règles sociales devraient vous contraindre à porter.
Je crois qu'on peut même aller plus loin et étendre le sens de manière plus large. Être nu, pour quiconque, c'est être dépourvu des attributs de sa fonction. Être nu, pour un citoyen romain, notamment lorsqu'il se trouve dans un lieu public fréquenté par les citoyens romains, c'est tout simplement ne pas porter la toge.
Dépouillé de.
C'est être dépouillé de. On dira qu'un guerrier est nu lorsqu'il n'a plus ses armes. On dira d'un sénateur ou d'un citoyen tout simplement qu'il est nu lorsqu'il n'a plus la toge. Par exemple, il y a une anecdote qui est rapportée par Pierre Cordier dans son livre, qui est très intéressante. On connaît l'histoire de Saint Cinatus, qui après avoir sauvé Rome, est retourné cultiver son champ. Et il est en train de labourer son champ, et on nous dit qu'il est nu.
Quand on va le chercher.
Voilà, quand on va le chercher. Mais il n'est probablement pas nu. Les paysans romains ne travaillaient pas la terre nue. Il avait sans doute un pagne, une tenue légère pour se couvrir. Et le messager du Sénat, qui arrive pour lui annoncer sa nomination comme dictateur, avant de lui délivrer le message, le prie de se draper dans une toge. Car on n'écoute pas le message du Sénat dans la tenue où il est. Il avait une tenue de paysan, qui sans doute était fort décente. Il doit porter la toge, parce que seule la toge, qui est le costume national des Romains, convient, en quelque sorte, pour écouter un message du Sénat.
Donc on s'approche presque de la métaphore. Je vais glisser là dans notre conversation un extrait qui est dû à un homme d'État français du XXe siècle, fort compétent dans l'histoire grecque et l'histoire romaine. Il s'agit du général de Gaulle qui, dans une célèbre conférence de presse des années 60, expliquant pourquoi il ne souhaite pas que la Grande-Bretagne rejoigne le marché commun, répond à l'interpellation d'un journaliste qui lui rapporte un propos qui a couru selon lequel il aurait dit « L'Angleterre, je la veux toute nue ». Entendez qu'il souhaitait qu'elle se soit libérée en particulier de ses relations avec les États-Unis d'Amérique.
« L'Angleterre, je la veux nue ».
Monsieur le Président.
Remarquez que la nudité pour une belle créature, c'est assez naturel et pour ceux qui l'entourent, c'est assez satisfaisant. Mais quelque attrait que j'éprouve pour l'Angleterre, je n'ai jamais dit ça à son sujet. Ça fait partie de ces propos qu'on le porte sur mon compte. Il paraît même qu'on en fait des livres et qui ne répondent que de loin à ma pensée et à mes propos.
Je ne sais pas, Maurice Sartre, si vous attendiez que j'introduise le général de Gaulle dans notre conversation.
Non, pas vraiment, mais je ne suis pas surpris par l'extrait qui est bien connu, évidemment. Ce qui est intéressant dans la réponse de De Gaulle, c'est qu'il associe la légitimité, j'allais dire, de la nudité à la beauté. À la beauté du corps féminin, ça va de soi, car on est quand même là au début des années 60, dans une atmosphère qui reste malgré tout relativement pudibonde.
Et assez masculine en même temps, parce qu'en dehors de Geneviève Tabouis qui est au premier rang, il y a encore assez peu de journalistes femmes, si vous regardez les bandes d'actualité.
Il y a peu de journalistes femmes, on reste dans une société qui reste très masculine donc, mais où en même temps, seule la nudité du corps féminin est légitime.
Avec l'esquisse de quelque chose qui a un tout petit peu de paillardisme doux, d'un peu de corps de garde.
Oui, disons que c'est une forme très atténuée d'appel à l'érotisme, en quelque sorte. Et là, alors, on mesure encore une fois la distance qu'il y a entre l'Antiquité et nous, où la légitimité du corps nu masculin ne fait aucun doute, celle du corps féminin est beaucoup plus difficile à accepter. Puisqu'on parlait tout à l'heure des Grecs, mais on parlera aussi des Romains, là aussi ils ont des opinions et des comportements différents. Il ne faut pas oublier que les Grecs ont très tôt représenté le corps masculin nu et pratiqué le nu. Effectivement, dans la vie courante, si j'ose dire, enfin, ça ne veut pas dire que les Grecs se promenaient nus en permanence, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on va revenir sur les occasions où le corps masculin peut se montrer nu. Au contraire, le corps féminin est toujours recouvert.
Les statues de femmes, par exemple?
Les premiers nus féminins apparaissent avec Praxitèle dans le courant du 4e siècle seulement. Alors, on peut dire qu'avant, on a triché. Tout le monde connaît les fameuses statues des victoires du temple d'Athéna Nikée sur l'Acropole à la fin du 5e siècle, où l'on applique ce que l'on appelle la technique de la draperie mouillée, qui ne masque pas grand-chose, il faut bien dire, du corps féminin. Mais il n'en reste pas moins que la représentation d'une déesse nue n'apparaît pas avant le 4e siècle, alors que l'homme nu apparaît très tôt, beaucoup
plus tôt. Le célèbre éphèbe de Critios, c'est au début du 5e siècle. C'est la première,
oui, mais même
qui est au musée de l'Acropole, à Athènes. C'est
même les couroïs de l'Acropole, des statues qui sont du 7e ou du 6e siècle, déjà pratiquent la nudité, affichent en tout cas la nudité masculine. Donc la nudité féminine, elle appartient à un milieu très précis, à des circonstances très précises. C'est celui de l'intime et c'est toujours lié à ce qu'on pourrait appeler l'érotisme.
Jusqu'à la prostitution.
Voilà, jusqu'à la prostitution.
En parlerons tout à l'heure,
mais c'est autre chose.
Je vais vous poser une question presque naïve. Pourquoi est-ce que les Grecs représentaient leur dieu nu? Après tout, ce n'est pas évident.
Alors ça, c'est une vraie question et j'ai pas de réponse.
Ah non, je voulais pas vous embarrasser.
Non, non, mais ça m'embarrasse pas parce que je crois que c'est, contrairement à ce que l'on dit, on n'a pas de vraie réponse. Bien sûr, on est allé, je dirais que par une méthode régressive en quelque sorte, on dit bon, les Grecs pratiquent le sport nu parce que c'est une manière d'exalter le corps qui les assimile à des dieux. Alors, bien sûr, ça ne fait que repousser la question. Et qui est votre question, mais alors pourquoi représente-t-on les dieux nus? On pourrait inventer des tas de choses. On pourrait dire, est-ce que c'est une exaltation de la virilité, par exemple? De la virilité, donc de la fécondité masculine, par exemple.
Oui, mais...
Or, rien ne s'y prête. Rien ne s'y prête. On a la représentation de dieux, qui sont fortement sexués, qui sont nettement sexués. Mais j'allais dire qu'on n'a rien là qui nous rappelle, par exemple, je pense à ces statues africaines ou amazoniennes, où on représente des dieux nus avec un sexe gigantesque qui, là, clairement, valorise, en quelque sorte, la fonction fécondante. Là, c'est pas le cas. Au contraire, les Grecs, et ça, c'est une chose qui est assez étonnante, les Grecs représentent leurs dieux, mais d'ailleurs comme les personnages sur les vases, avec des sexes petits. même parfois ridicules. On est étonné de voir, par exemple, des représentations d'Héraclès où on voit ce personnage avec une musculation impressionnante et qui a, je dirais, presque un sexe de nourrisson.
Ça évoluera à l'époque de la Renaissance. Il y a au Palais Farnèse à Rome un Hercule qui, à cet égard, n'est pas dans la situation que vous évoquez à propos de ceux qui remontent à l'époque des Grecs.
Oui, c'est vrai, mais justement...
Ça fera beaucoup les visiteurs et les visiteuses en haut de l'escalier où il est installé.
Simplement, c'est effectivement des œuvres de la Renaissance et pas des œuvres de l'Antiquité. Et c'est pour tout ça pour dire qu'il y a, chez les Grecs, une relation entre la nudité et la pudeur. On peut être nu, mais la pudeur ne fait pas défaut. Aristophane le décrit très bien, évidemment à sa manière, qui est une manière comique, dans un célèbre passage des Nuées, où il explique que autrefois, quand on recevait une bonne éducation, eh bien, le jeune homme il s'asseyait de façon correcte, à ne rien montrer d'indécent, et il ajoute, il avait la fesse ronde et la verge petite. Maintenant que les jeunes gens subissent l'éducation des sophistes, l'éducation moderne, ils ont la fesse tombante et la verge grosse.
Curieux que l'éducation des sophistes permette ce changement, cette mutation.
C'est évidemment une boutade, mais ce que j'en retiens, et c'est ça là-dessus que je voulais insister, c'est qu'il estime que la taille de la verge est quelque chose qui compte en quelque sorte, qui est le signe de la pudeur. L'homme pudique, ce qui valorise l'homme, ce n'est évidemment pas la taille du sexe qu'il montre, au contraire. Et donc, on voit bien qu'il y a là un lien qui s'établit entre la nudité telle qu'elle doit se pratiquer socialement et la pudeur. Il n'y a pas opposition en quelque sorte. Et dans un autre passage, par exemple, Aristophane montre que lorsque on doit avoir un défilé de jeunes gens nus, eh bien ceux qui sont impudiques sont ceux qui cachent leur sexe.
Une sorte d'étrange renversement à nos yeux.
Une sorte d'étrange renversement des valeurs. Car il y a des occasions où il faut être nu, où on doit se montrer nu, et il y en a d'autres où on doit cacher cette nudité.
Remontons un instant plus loin en arrière, puisqu'on trouve aussi dans Homère tout un réservoir de situations qui peuvent éclairer notre sujet. Et je vais vous faire accompagner un instant avec nos auditeurs Ulysse qui aborde au rivage où il va rencontrer Nausicaa. Nausicaa, c'est une interprétation assez kitsch, vous allez voir, de Muse d'Albret en 1960. Et c'est François Perrier qui interprète Ulysse au moment où il débarque tout nu après un naufrage sur le sable.
À moi, Nausicaa ! Lance la balle ! C'est à moi ! Ok !
Où suis-je ? Ces rires ? Sont-ce des jeunes filles ou des songes ? Ce sont des jeunes filles. Elles ont lavé le linge au fleuve et elles jouent attendant qu'il sèche. Me montrerai-je nu comme je suis, mais la nécessité me presse. Que du moins ce vert feuillage cache ma nudité.
Oh, regardez, un homme nu, un sauvage.
Fuyons, mes soeurs.
Nausicaa,
oh, jeune fille, qui que tu sois, je viens à toi en suppliant. L'infortune m'accable. Après des jours et des jours d'épreuves cramponnées à une planche, seul sur la mer en furie, j'ai pu hier à la nuit me traîner sur ce rivage. Montre-moi le chemin de la ville, ô jeune fille, et donne-moi quelques haillons afin que je couvre mon corps.
Est-ce que c'était parce qu'il rencontrait des jeunes filles de bonne famille et non pas des servantes que l'arrivée de Ulysse nue était choquante, ou bien parce que c'était l'intrusion de l'inattendu seulement ?
Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il est dans un état de nudité sauvage. C'est ce qu'il dit lui-même. Effectivement, il a fait naufrage, il a été jeté par les flots sur cette plage de Phéacie. Donc, ce n'est pas du tout une nudité choisie, si j'ose dire. Ce n'est pas la nudité de l'athlète, ce n'est pas la nudité du baigneur. C'est un retour à la nature par la sauvagerie, j'allais dire, la barbarie de la mer.
Ni d'ailleurs même la nudité du taureau blanc où Zeus s'était incarné quand il est allé enlever la nymphe Europe sur les rivages de Phénicie.
Voilà, donc ce n'est pas une nudité choisie. Donc c'est la nudité du barbare, du sauvage. D'ailleurs, l'adaptation, parce qu'effectivement ce n'est pas le texte d'Homère, c'est bien une adaptation, dit « Ah, un sauvage !» Voilà un sauvage. Donc ça c'est la première raison pour laquelle Ulysse ne cherche pas à être vu. La deuxième raison, c'est qu'il y a des jeunes filles sur la plage. Et ces jeunes filles, il ne sait pas qui c'est. Donc, il peut, et il est même vraisemblable, qu'il y a des femmes libres. Si c'est que des esclaves et des servantes, c'est pas gênant. Parce qu'après tout, les servantes, elles sont là aussi pour le frotter dans son bain. Et donc, la servante qui le frotte dans son bain, qu'elle le voit nu, ça n'a aucune importance.
Donc, la pudeur s'efface immédiatement dès lors qu'on change de classe sociale.
Exactement. Et donc là, il peut se trouver en face de femmes libres, qui verrait sa nudité de sauvage. Et donc là, la pudeur lui commande de cacher son sexe. Et donc, il coupe un rameau, effectivement, dont il espère que les feuilles vont le masquer, au moins en partie, enfin suffisamment en tout cas, pour que les jeunes filles ne soient pas effarouchées.
Ce qui surprend et peut-être dérange le plus Ulysse dans cette situation, et Nausicaa, c'est que le vêtement ne permet plus de se situer socialement.
L'absence de vêtements, par définition, laisse l'individu à l'état brut. Alors, soit on le connaît déjà et on sait à qui on a affaire, soit on ne le connaît pas et il n'y a aucun repère social, en quelque sorte. Et ça, c'est un des points, justement, qui gênait beaucoup les Romains.
Par rapport aux Grecs.
Par rapport aux Grecs. Lorsque les Grecs vont au gymnase, ils voient des corps nus. Mais on est, dans le monde grec, souvent dans une société du face-à-face, c'est-à-dire dans des petits groupes où tout le monde se connaît.
Et d'origine sociale
équivalente.
Et en plus,
d'une origine sociale pas forcément équivalente. Ce sont des hommes libres.
Il n'y a pas d'affranchis, il n'y a pas d'esclaves.
Bien entendu, il n'y a pas d'esclaves au gymnase, il n'y a pas d'esclaves qui aient le droit de pratiquer le sport.
Bon, ce n'est pas le jockey club, ce n'est pas l'automobile club, mais c'est tout de même un endroit où on sait qu'on ne...
On est au moins entre hommes libres. Donc, on se connaît. Et puis, encore une fois, comme on est, même dans la plupart des cités, dans des petits groupes, on sait qui on a en face de soi. Et donc, d'une certaine manière, au gymnase, on sait quel individu est d'un rang équivalent au sien ou au contraire d'un rang inférieur.
Donc, on n'est pas gêné par une nudité qui priverait de repères sociaux.
Exactement. Parce qu'il ne faut pas se cacher que les Grecs le savaient très bien, le gymnase est aussi, j'allais dire, un lieu de drague, en quelque sorte. Et c'est un comportement qu'on ne peut pas avoir avec n'importe qui. Là aussi, il y a des codes sociaux qu'il faut respecter.
En tout cas, sans payer.
Oui, bien entendu. À Rome, les choses sont différentes, parce qu'on est dans une société, dans des villes d'abord beaucoup plus importantes en général, et les termes, là c'est pas le gymnase qui est en cause, ce sont les termes avec beaucoup plus de monde, et souvent les Romains sont gênés par le fait de savoir que le corps nu qu'ils voient est donc sans repère pour eux. On ne sait pas à qui on a affaire. J'allais dire que, et c'est ce que montre très bien Pierre Cordier, c'est qu'on ne sait pas si le corps que l'on a en face de soi est un corps disponible ou non, en quelque sorte. Disponible à la séduction. Et donc, est-ce qu'il s'agit, parce que là, il peut y avoir des esclaves qui accompagnent leur maître, il peut y avoir des affranchis, il peut y avoir des gens appartenant à des milieux sociaux extrêmement différents. Et donc, les Romains sont extrêmement gênés par cette absence de repères sociaux, en quelque sorte, que provoque nécessairement la nudité du baigneur. Et ça, Pierre Cordier le montre très bien dans son livre. Il y a une sorte de nudité qui brouille les pistes sociales, en quelque sorte.
C'est aussi un trait, d'ailleurs, des plages de nudistes, ce qui est exprimé de façon badine par un chansonnier des années 30, dont je vais vous faire entendre le propos. Ça s'appelle « Être nudiste » et le chansonnier est Paul Colline.
Être nudiste, assurément, ça a des avantages et des inconvénients. C'est parfois gai, c'est parfois triste d'être nudiste. Fatigué d'être le touriste pour trop bretons ou normands, je suis allé passer un mois chez les nudistes avec ma femme et mes enfants. Pour vivre nu, donc sans effet, constatons ce premier bienfait, les bagages sont bientôt faits. Pensez donc avant le départ, en tout et pour tout pour ma part, j'avais acheté 4 pagnes et un soutien-gorge de campagne. Le soutien-gorge pour ma femme, un pagne de soie pour ma femme, 2 petits pagnes pour les enfants, pour moi un pagne un peu plus grand. La première fois, somme toute, qu'on est en pagne sur une route, exposé à tous les regards, aussi nu qu'un roman de Raymond de Machard, qu'on soit homme, femme ou gamin, on ne sait pas où mettre ses mains, on ne sait pas où mettre ses pieds, on ne sait pas où mettre ses clés. Quand on est nudiste, bien sûr, on n'a pas de poche, c'est ennuyeux, sauf sous les yeux quand on est vieux. Quand on est avec des nudistes qu'on ne connaît pas, ça va encore. S'ils voient tous les défauts de votre corps, voir les leurs est un réconfort. Ils sont comme ça, on est comme ça, Dieu l'a voulu, et puis voilà, 5 minutes de conversation, on n'y fait plus attention. Mais le terrible, dans les débuts, c'est de rencontrer quelqu'un tout nu que l'on connaît. Car être à poil pour se dire des choses banales, comme celles que toujours on dit, « Tiens, bonjour, comment vous ici ?» pendant qu'on s'examine des yeux à la dérobée, c'est odieux. Pour moi, tout alla bien pourtant jusqu'au moment où, apprenant que j'étais chansonnier un jour, on me demande à mon concours pour une fête de charité et je suis forcé d'accepter. Des galeries jusqu'au fauteuil, la salle, pleine de nudistes, offrait un drôle de coup d'œil. Bien qu'ayant mis un pagne noir pour paraître plus habillé, quand ce fut mon tour de chanter, je crus vraiment ne pas pouvoir. J'ai constaté que sans effet, on déplace un peu les effets. Mais la scène n'est pas un ring. Et malgré tous les faits que tout nu j'ai pu faire, je vous jure que je préfère toute ma vie ne plus en faire et chanter le soir en smoking. Être nudiste, assurément, ça a des avantages et des inconvénients. C'est parfois gai, c'est parfois triste d'être nudiste.
Les inconvénients, est-ce que ce sont ceux qu'éprouvaient les Romains, qu'éprouvaient vos Romains, Maurice Sartre? Parce qu'au fond, eux, ils craignaient de voir des gens qu'ils ne connaissaient pas, alors que notre chansonnier, il est ennuyé de voir des gens qu'il connaît. C'est presque l'inverse.
C'est presque l'inverse. D'abord, première remarque, c'est que cet homme qui part en famille pratiquer le nudisme, en fait, il porte des pagnes, il a acheté des pagnes, et pour sa femme, un soutien-gorge. Alors, c'est quand même pas tout à fait la nudité. Autant que je sache, on voit que ça remonte aux années 30 ou quelque chose comme ça, parce que aujourd'hui, c'est une tenue qui serait plus que décente sur une plage.
Ça rejoint ce que vous disiez des Romains, c'est-à-dire que la nudité, ça ne veut pas dire forcément la nudité intégrale, mais ça veut dire absolument le fait d'être dépouillé des vêtements que d'habitude on porte.
Voilà, absolument. Et ça, alors, c'est un trait qui est tout à fait propre au monde antique. C'est que on emploie le terme de nu dans des circonstances extrêmement variées. Tout à l'heure, j'évoquais Cincinnatus, qu'on déclare nu parce qu'il porte un pagne, comme notre homme là qui part en vacances,
en train de labourer,
alors qu'il est en train de labourer. Mais il y a des cas beaucoup plus extraordinaires même. Par exemple, lorsque Caius Gracchus, l'un des Gracques, est le premier à sortir le bras de sa toge et à montrer son bras nu en prononçant un discours devant le peuple au forum, on estime qu'il s'est montré nu, nudus. On emploie le mot nu parce qu'il a fait offense en quelque sorte à la pudor, ce que les Romains appellent la pudor, c'est-à-dire quelque chose qui vise à provoquer une émotion. Alors non seulement déjà il marchait en parlant, ce qui ne se faisait pas normalement, mais en plus il sort un bras nu pour en quelque sorte provoquer une sorte de choc, comme chaque fois que quelque chose se fait pour la première fois.
Alors que d'ordinaire, les orateurs gardaient les
bras... Ils gardaient les bras immobiles sous leur toge, ou contre leur toge en quelque sorte. Mais là, il sort le bras nu, on en a gardé le souvenir. Il a été le premier à montrer son bras nu et on le déclare donc nudus. Mais on va dire par exemple d'un Romain qu'il est nu s'il se montre sur le forum en tunique et non avec la toge du citoyen romain. Autre exemple d'emploi du mot nu, là aussi j'emprunte tout ça à Pierre Cordier qui a vraiment fait un livre là, tout à fait formidable. Lorsque les Romains sont vaincus par les Samnites en 321, on leur enlève leurs armes et on ne leur laisse qu'un vêtement. Donc à nos yeux, ils sont loin d'être nus puisqu'ils ont un vêtement. Eh bien tous les auteurs anciens disent que les Romains étaient désormais nus parce qu'ils sont sans armes. En fait, et ça revient à une idée qu'on a développée déjà tout à l'heure, on est nu à partir du moment où on est dépouillé des attributs de sa fonction, en quelque sorte. Donc là, un guerrier sans armes est un guerrier nu. Là, c'est une pratique grecque aussi. Lorsque les jeunes spartiates qui pratiquent le rite d'initiation de la cryptie sont envoyés dans la campagne, on nous dit qu'ils sont envoyés nus.
Vous le racontez dans votre livre consacré aux histoires grecques, effectivement.
Voilà, et je crois qu'il ne faut pas penser qu'ils sont pour autant nus au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire dépouillés de tout vêtement. c'est qu'ils ne sont envoyés sans armes et même sans armes de l'hoplite, puisqu'on sait qu'ils ont un petit coutelas pour assassiner des ilotes. Donc ils ne sont même pas totalement désarmés, mais ils sont nus, ils n'ont pas les armes qui sont celles normalement du citoyen ou celles qu'ils auront quand ils seront citoyens, c'est-à-dire les armes de l'hoplite. Alors on voit que le terme de nu peut varier à l'infini. Et chez les Grecs, on a là des gens qui sont nus, l'athlète, il est nu, complètement. Mais en même temps, on va qualifier de nu des gens que nous, nous jugerions bien habillés.
Vous confirmez que dans toutes les périodes, d'une certaine façon, la nudité, c'est aussi une construction sociale. Et la pudeur ou l'impudeur, évidemment,
c'est une construction sociale.
Je pense, par exemple, on dit toujours que l'érotisme japonais met en valeur la nuque des japonaises. On se rappelle aussi Verlaine, qui évoque ses promenades avec des jeunes filles sur la plage et l'émotion qu'il avait à voir leurs chevilles. Les hauts talons luttaient avec les longues jupes et nous aimions ce jeu de dupes.
Oui, mais je crois que la nudité peut se limiter à quelque chose d'infime. On a par exemple à Rome des nudités rituelles qui sont qualifiées comme telles, je veux dire, qui sont qualifiées de nudité. On peut en prendre deux exemples ou trois exemples qui sont tout à fait opposés et tout à fait différents. Lorsque par exemple les matrones romaines célèbrent une fête qui ressemble un peu à ce qu'on appelait, je ne sais pas si les auditeurs connaissent encore, la fête des rogations, qui avait lieu au mois de mai, quelque chose comme ça, et qui est destinée notamment à faire tomber la pluie sur les récoltes. Ça s'appelle les nudipédalia à Rome. Eh bien, les matrones romaines, qui n'auraient jamais montré le bout d'un orteil dans d'autres circonstances, devaient monter nu-pieds au Capitole, vêtues évidemment de la tête aux pieds, et on ne dit pas qu'elles ont les nu-pieds, simplement les pieds nus. On dit qu'elles montent au Capitole nues, alors qu'elles ont en tout et pour tout le pied nu.
Ça me fait penser à la célèbre pièce de Feydeau de 1902 qui s'appelle « Mais ne te promenons pas toutes nues » et qui est l'histoire d'un parlementaire dont la femme a tendance à se promener dans l'appartement sous le regard possible de Clémenceau qui habite en face et qui risque de la voir à travers sa fenêtre. Ça inquiète beaucoup le héros, mais en réalité, elle ne se promène pas toutes nues.
Non, elle se promène sans sa robe qui permet de sortir ou de recevoir. Elle est en sous-vêtements, et quand on connaît les sous-vêtements de la fin du 19e ou début du 20e siècle, quasiment des pantalons longs avec des froufrous des femmes, disons qu'aux yeux d'un homme de 2008, cette femme ne se promenait vraiment pas nue, loin de là.
En vous écoutant évoquer la toge, je pensais aussi à ce célèbre épisode dramatique de la mort de César. Quand il est frappé de coups de poignard, il s'aperçoit qu'il va mourir.
Alors là, on est dans le cas d'une nudité dévalorisante. Il y a les outrages aux cadavres, car là aussi, c'est une nudité construite. On a dit tout à l'heure au début qu'il y avait la nudité brute, puis il y a des nudités construites. Mais dans les nudités construites, il y en a qui sont valorisantes, celle de l'athlète, celle du dieu représenté sur son socle, etc.
Vous avez sûrement noté qu'en septembre dernier, Vladimir Poutine s'est fait reproduire dans toute la presse, je dirais pas servile, mais disons fidèle à son autorité, avec un torse nu en train de pêcher en Sibérie.
Oui, je crois que c'est une manière de valoriser cet homme qui apparaît, je pense, un peu comme un gringalet, il faut bien le dire, quand on le voit sur des photos.
Ben
là,
non,
se fait
non.
Représenter, non, effectivement, quand on voit la photo, il est torse nu. Il y a des éclairages extrêmement savants pour souligner d'ailleurs son torse, sa musculation.
Il a un chapeau à la Indiana Jones.
Et alors il a à la main, il faut le décrire pour les auditeurs qui ne le voient pas évidemment.
Ils le trouveront sur la toile.
Il a en fait une canne à pêche à la main, mais quand on regarde un petit peu vite, ça pourrait être aussi bien un fusil à canon scié en réalité qui apparaît là. Mais je crois qu'on a eu aussi en France, il me semble, un Premier ministre il n'y a pas si longtemps, qui se faisait filmer ou photographier à la sortie du bain en faisant jouer sa puissante musculature. Donc là, c'est une nudité...
Pas besoin de mettre une note en bas de page.
construite et valorisante. Mais il y a des nudités construites dévalorisantes. J'évoquais tout à l'heure les Samnites prisonniers, mais c'est le cas du cadavre aussi de César. César, au moment où il est assassiné, il sait qu'il va mourir, couvre à la fois son visage avec sa toge et ses cuisses. Car il y a là une sorte de réflexe de pudeur de ne pas apparaître nu. Le cadavre est couvert en général. parce que on ne doit pas montrer en quelque sorte les organes génitaux d'un cadavre. Sauf, alors ça se fait parfois, et Pierre Cordier le raconte très bien, pour montrer par exemple que quelqu'un a été assassiné de façon sauvage, ignominieuse, on va le dénuder le cadavre et le promener en ville pour appeler à la vengeance. Mais là, c'est un cas tout à fait particulier.
Donc la dénudation en fait dégrade autant que le fouet, et cela nous ramène d'ailleurs à d'assez sinistres épisodes récents. Je pense à ce qui s'est passé du côté d'Abu Ghraib au moment de la récente guerre d'Irak, créant l'émotion de l'opinion américaine et à vrai dire de l'opinion mondiale.
Mondiale, oui.
Mondiale. Écoutez ce reportage de Pierre-Yves Dugas pour France Inter le 6 mai 2004.
Les dizaines de nouvelles photos d'humiliation choquantes obtenues par le Washington Post semblent appartenir à la même série de clichés publiés la semaine dernière. L'une d'entre elles, en première page du quotidien de la capitale, montre une femme soldat tenant en laisse un prisonnier nu allongé par terre. D'autres du même acabit sont décrites par le quotidien, mais visibles sur son site internet. On y voit un homme nu attaché, par exemple, dans une cellule, portant un sous-vêtement féminin sur sa tête. La Maison-Blanche juge ces nouvelles images tout aussi affligeantes que les précédentes. Ces photos numériques, copiées sur des CD, circulaient parmi les soldats de la 372e compagnie de police militaire. Saisies par l'armée, elles ont servi au général Taguba dans son rapport secret, mais accablant, rédigé début mars. Le président Bush reproche aujourd'hui à son secrétaire à la Défense de ne pas l'avoir informé de l'existence de ces images qui scandalisent l'opinion. Washington, Pierre-Yves Dugas, France Inter.
Est-ce qu'on pourrait imaginer une scène du même genre dans l'Antiquité grecque ou romaine, après la victoire, pour humilier les corps et en attendant d'en faire des esclaves?
On n'a même pas à imaginer, parce qu'on a des exemples semblables, pas exactement semblables, évidemment, mais qui évoquent ça exactement. On sait par exemple qu'après la défaite, les Grecs déshabillaient des combattants, des prisonniers de l'armée perse, soit pour montrer comme ils étaient blancs de peau, ce qui est le contraire du hâle du corps grec qui s'expose assez fréquemment au soleil et donc qui est un corps hâlé.
J'annonce une prochaine émission de Concordance des temps sur le bronzage avec Pascal Horry.
Voilà, un premier élément qui sera peut-être utile.
En forme de bande-annonce.
Soit pour montrer qu'il s'agit de corps blanchâtres, j'ose même pas dire blancs, mais blanchâtres, donc des corps sauvages, ou bien au contraire qu'ils sont noirs de peau. Il s'agissait de troupes levées sur les confins de l'Empire, et il pouvait y avoir des gens extrêmement bruns de peau.
On refuse le blanc comme le noir.
Voilà, on refuse les deux excès en quelque sorte, et c'est une manière de dire que la seule couleur possible pour un corps de guerrier convenable, c'est un corps convenablement hâlé, et hâlé sur toute sa surface. Ce reportage qu'on vient d'entendre doit aussi nous faire toucher du doigt une deuxième chose. C'est que d'une civilisation à l'autre, le rapport au corps varie infiniment. Et donc, en dehors de l'horreur de tout, il n'y a pas de commentaire à faire en plus, je crois que là-dessus tout le monde est assez d'accord, du comportement de ces soldats américains. En plus, les victimes sont des gens qui appartiennent à une civilisation où le rapport au corps est tout à fait différent de ce que nous, on peut connaître. Je ne dirais pas que ça ajoute à l'horreur, parce que l'horreur est bien suffisante comme elle l'est déjà, mais en plus, des gens pour qui la nudité n'est jamais... Alors là, jamais valorisante, sauf dans l'intimité, évidemment, ou dans des circonstances amoureuses ou érotiques.
Donc Abu Ghraib, c'est aussi un choc de culture.
Voilà, c'est un double choc. Il y a d'une part l'humiliation du vaincu qui aurait été ressentie, je pense, par n'importe qui, y compris par des Grecs de l'Antiquité. Et puis, il y a aussi l'aggravation par le fait qu'on est dans un monde où le rapport au corps n'est pas le même.
Ça peut exister déjà dans l'Antiquité, même
si vous
me disiez sur la différence de sensibilité entre les Romains et les Grecs, elle est un peu dans cette direction.
Il y a bien sûr la différence de sensibilité entre Grecs et Romains, mais je dirais que ça va plus loin encore, c'est la différence de sensibilité entre les Grecs et les Romains d'une part, et les barbares de l'autre. Et là-dessus, je voudrais vous raconter deux petites choses. Vous savez que l'Empire romain s'est étendu très loin à l'est et sur l'ensemble de la Syrie, et on a été frappé depuis longtemps de voir que dans une ville comme Palmyre ou dans une ville comme Petra, qui sont des villes assez profondément hellénisées, où il y a des gens qui portent des noms grecs, on emploie le grec, eh bien ces deux villes riches de l'Empire n'ont jamais, jamais organisé de concours à la grecque, ou de ces concours où l'obligation était faite de courir nu et de pratiquer le sport nu. Et c'est une chose très étrange, parce que ce sont des villes riches et les concours valorisaient beaucoup les villes. C'était une manière de faire de la publicité, comme aujourd'hui lorsqu'une ville organise des championnats, des Jeux olympiques ou même tout simplement des grands championnats. Ça, c'est une première chose qui est très frappante. Et je me demande si ça ne tient pas au fait qu'il y avait déjà dans ces milieux, parce que malgré tout la population est très profondément grande partie arabe déjà à cette époque-là, bien avant l'islam, déjà un rapport au corps qui n'est pas le même que celui des Grecs de pure souche.
Une permanence vraiment extraordinaire.
Et puis il y a une autre anecdote que je trouve moi très intéressante et que je vous résume, c'est un texte tiré de Lucien de Samosate. Lucien de Samosate a écrit un traité qui s'appelle « De l'athlétisme ». Et dans ce traité, il fait se rencontrer deux sages, le sage Anacharsis, qui est le sage barbare par excellence, puisqu'il est scythe, il vient des plaines d'Ukraine, et Solon, le grec. Et Anacharsis arrive chez Solon en lui disant « Écoute Solon, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose. Je marchais tout à l'heure dans la rue, je suivais une troupe de jeunes gens, très, très bien, bien habillés, ils bavardaient joyeusement entre eux, à un moment ils sont rentrés dans un bâtiment, je les ai suivis. Là, à ma grande stupeur, ils se sont déshabillés complètement, ils se sont mis nus, ils se sont enduits d'huile, se sont roulés dans la poussière et ils se sont mis à se battre comme des chiffonniers. Je me suis dit, tiens, ils s'entraînent peut-être pour l'armée, pour la guerre, mais enfin, on ne s'entraîne pas de cette manière-là. Ou bien le vainqueur va avoir une grosse somme d'argent. Pas du tout. Ils se sont, quand l'un a été proclamé vainqueur, ils se sont tous relevés, ils se sont congratulés, ils se sont nettoyés. Ils se sont rhabillés, ils sont repartis bras dessus, bras dessous. Est-ce que toi, Solon, tu peux m'expliquer cette étrange coutume ?
Regard extérieur restituant une étrangeté.
Et Solon lui répond, tu n'as rien compris à ce que tu as vu, et c'est bien ce qui prouve que tu es barbare.
On ne peut pas mieux résumer, effectivement, le regard croisé de deux civilisations qui ont peine à se comprendre. Il reste un dernier chapitre à considérer, Maurice Sartre, c'est celui du corps qui se montre ou se vend, qui s'exhibe ou s'offre pour de l'argent. Marguerite Duras va nous permettre d'introduire ce dernier aspect de notre conversation. C'est un extrait d'une séquence de Dim Dam Dom, émission de télévision fameuse d'Eside Gallard dans les années 60 et 70. Elle interroge une stripteaseuse.
C'est un vrai travail, la striptease ?
Oui. C'est un vrai travail parce que si il est bien fait, c'est quand même artistique. Ça demande au moins de savoir marcher, il faut avoir une base ou de danse, il faut savoir quand même, n'exagérons rien, pas dire jouer la comédie, mais enfin savoir se servir de son visage, tirer parti au maximum de ce qu'on a. Au fond, ça ne demande pas tellement. Il n'y a pas besoin d'être très joli. Ce qu'il faut savoir faire, enfin c'est un terme de métier, c'est savoir vendre sa salade.
Oui.
Mais c'est un vrai métier.
C'est pas seulement une question de beauté.
Non. Non, à l'encontre du mannequin nu, le mannequin nu doit avoir une plastique. La stripteaseuse, pas du tout.
Un mouvement.
C'est surtout un mouvement, ça peut être... un visage est très important.
Oui.
Une gueule est plus importante en striptease qu'un très beau corps.
Qu'est-ce qu'ils vont chercher, les gens en striptease ? C'est pas une femme qui se déshabille seulement.
Non, je crois que c'est l'illusion.
De quoi ?
L'illusion. C'est-à-dire, si une femme se déshabille, eh bien, si vous voulez, ils l'adaptent à leur imagination.
La femme est toujours seule ?
Oui. Dans le striptease permanent, oui.
Ce qui frappe, Maurice Sartre, c'est l'effort pour revaloriser ce que le regard, d'une certaine façon, dévalorise. Cela fait écho à certains aspects du monde romain, à vos yeux ?
Oui, bien sûr, parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a une nudité qui est construite, mais qui est dévalorisante. Celle de la femme avilie, de la prostituée, car la prostitution évidemment existe dans l'Antiquité, ou de l'esclave. L'esclave que l'on vend est toujours présenté nu, quoi qu'il arrive.
Pour qu'on puisse être informé sur la marchandise.
Pour qu'on puisse être informé sur la marchandise, exactement, pour qu'on ne puisse cacher aucun défaut virtuel, potentiel de la marchandise. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette stripteaseuse qui essaye de reconstruire en quelque sorte une image valorisante de son métier, elle me fait penser à quelque chose qui existe à Rome, une fête qui s'appelait les Floralia. Et lors des Floralia à Rome, les prostituées de Rome donnaient des spectacles pour le public, donc c'était une manière de les réintroduire en quelque sorte dans la société, des spectacles qui étaient très appréciés des spectateurs et qui étaient plus que légers puisque les prostituées en quelque sorte faisaient publicité de leur savoir-faire, elles vantaient en quelque sorte leurs techniques différentes, c'était une manière de faire de la promotion de leur métier.
En somme, même en considérant tout l'éventail des comportements féminins dans cette antiquité grecque et romaine, Maurice Sartre, on est frappé de ce que la nudité n'est jamais socialement valorisante pour les femmes, ce qui n'est pas le cas pour les hommes.
Je crois qu'effectivement, il n'y a pas de parallèle entre la nudité masculine et la nudité féminine. La nudité féminine, on l'a rappelé, d'abord elle apparaît tard, et d'un autre côté, elle est toujours en quelque sorte un moyen de vendre quelque chose, vendre son corps pour les prostituées, mais ou d'émouvoir, de séduire. C'est un instrument de séduction.
Et plus largement. Oui.
Voilà, comme la stripteaseuse de tout à l'heure. C'est par exemple la célèbre histoire de Phryné se dénudant devant ses juges pour les apitoyer. Mais c'est aussi une manière de se vendre. Donc la nudité féminine est en fait une arme de séduction à tout moment. Que ça soit dans un échange marchand ou que ça soit dans un échange amoureux, tout simplement. Alors qu'il y a au contraire, une nudité masculine qui est une nudité qui est socialement imposée en quelque sorte et qui ne vise pas à vendre quoi que ce soit. Les jeunes gens nus qui subissent les rites d'initiation, les athlètes nus qui incarnent à leur manière l'idéal de la civilisation grecque et qui permettent même aux Grecs de se différencier des barbares. Et donc on a là deux nudités qui sont totalement différentes, me semble-t-il, l'une de l'autre.
Eh bien, nous terminons sur la nudité féminine et sur le striptease avec Strip Rock de Boris Vian, interprété par Magali Noël, une chanson de 1956.
M'offrez quelques diamants, j'accepte d'enlever mes gants. Je sais que j'ai la peau douce dans des tas de petits coins. Je sais que j'ai des vraies sœurs et que je suis une vraie rousse. Je sais ce que vous voulez, mais si vous prenez, payez.
Payez, et là, et là, et l'amour.
Vous me prenez par les sentiments, vous me ferez perdre mon temps. Je veux bien retirer mes fourrures, vous verrez mon décolleté. Je veux bien ôter mes chaussures, c'est plus comme un tour danser. Je veux bien défaire ma ceinture, mais c'est tout ce que vous aurez.
Allez,
maintenant que j'ai commencé, tant pis pour vous, faut y passer. Je vais dégrafer le reste, et tant pis pour la pudeur. Je vais achever d'un geste de vous dévoiler mon cœur. Je vais prouver sans conteste que tout est à la hauteur. Le porte-jarretelle, les bas de nylon, le soutien-gorge noir.
Et voilà qui est sous la. sans prévenir personne. Oui,
oui.
Le projecteur s'éteint.
Merci beaucoup, Maurice. J'espère que nous aurons réussi à faire comprendre quelle est la grande complexité du sujet, dans l'ordre des réalités, dans l'ordre des représentations, dans l'ordre des fantasmes, dans l'ordre de certaines visions de la civilisation. Vous avez rendu hommage, après moi, au livre majeur de Pierre Cordier, sur lequel nous avons largement fondé notre conversation, qui s'appelle « Nudité romaine » au pluriel, un problème d'histoire et d'anthropologie, paru aux Belles Lettres en 2005. Nous avons évoqué également, chemin faisant, votre ouvrage « Histoire grecque, histoire au pluriel », et toute une série de regards croisés sur cette civilisation qui est en passe, si j'ai bien compris, d'être traduit en anglais, hein, aux États-Unis. Oui. Oui. Et vous m'avez dit qu'on avait gardé le titre même, ce qui est d'habitude, c'est pour les films, c'est le contraire.
Oui, c'est vrai, mais là, pour une fois, un livre va paraître aux États-Unis avec un titre français.
En français, il est édité au Seuil, Univers historique, en 2006. Et puis vous avez, avec Annie Sartre-Fouria, consacré un volume de la collection Découverte en 2008 à Palmyre, la cité des caravanes. Vous retrouverez toutes ces références naturellement sur notre site et vous pourrez également réécouter ou télécharger cette émission grâce à lui. C'était Concordance des temps, une émission proposée par Jean-Noël Jeannet, avec Agnès Chauveau, avec Meryl Moneghetti, Patrick Molinier à la réalisation, Claude Nior à la prise de son, Virginie Gresset et pour les Archivina, Florence D'Artois.
Et vous, déshabillez-vous.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 juin 2008.